L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. L'un des sujets qui questionne énormément les professionnels du livre depuis quelques années est l'écologie du livre. Par écologie du livre, on entend mener une réflexion sur l'ensemble des moyens mis en œuvre pour la création et la vente des livres. De l'impression, en passant par la gestion des flux et du transport, c'est l'ensemble de la responsabilité collective de la chaîne du livre et de ses acteurs qui est questionné. Quel est l'impact écologique, social et sociétal de la production d'ouvrages ? Qu'ils soient imprimés ou au format numérique, les questions se posent. Et ce sont de ces questions que nous discuterons durant cette émission et la suivante.
Des comme, dis donc, tu me dois des ducats ?
Désolé, je les ai pas sur moi.
Désiré reçoit des ducats, des domestiques du duc de Dondaine, car il a vendu deux dadas à la duchesse et le duc et lui doit.
Bienvenue dans l'Épluche Livre. Notre invitée du jour est Fémo, autrice de Dream Trotter, je parle très mal anglais, sous-titré Un voyage initiatique vers l'écologie. Fémo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc vous n'êtes pas en studio, vous êtes au téléphone. Vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends parfaitement.
Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre parcours ?
Oui. Fémo, de mon vrai nom, Hélène Morin, j'ai eu un parcours assez atypique, au sens où j'ai démarré plutôt par une première partie de mes études littéraires et sur de la sociologie. Après, j'ai fait plutôt une école de commerce. Donc j'ai plutôt cherché à m'ouvrir à la gestion de projet pour finalement démarrer ma carrière professionnelle plutôt dans des projets d'accompagnement liés au digital.
D'accord.
Donc quand même loin à la base, on va dire, de la bande dessinée.
Très bien. Donc là, vous allez nous parler d'écologie. Donc effectivement, à travers cette bande dessinée, est-ce que c'est votre première BD ?
Oui, tout à fait. Oui. Mon premier ouvrage.
Qu'est-ce qui vous a amené à initier une réflexion autour de l'écologie, au sens large, premièrement ?
En fait, je suis un peu tombée dessus par hasard. Au sens où l'idée de cette bande dessinée, à la base, c'était avant tout l'idée de réaliser mes 10 rêves d'enfance.
D'accord.
Et en fait, je suis partie du coup en tour du monde en me disant ça va être l'occasion de réaliser ces rêves d'enfance. Et au fur et à mesure que je les réalisais, je me suis heurtée à pas mal de contraintes liées au réchauffement climatique. Ce qui fait que même si la BD parle de rêves d'enfance, par exemple apprendre à cultiver des tomates, sauver des animaux en détresse, devenir une surfeuse aguerrie, la liste des 10 rêves est assez universelle et chacun peut s'y retrouver. Pour les réaliser, j'ai été vivre chez les habitants de 3 pays, qui m'ont aidé à les rendre réels. Donc, par exemple, j'avais un chapitre consacré à vivre une vie de cow-boy dans un ranch. Mm. Donc, je me suis rendue chez des gauchos en Amérique latine qui vivaient de ça.
Là, on est déjà dans le cœur presque de votre ouvrage. Qu'est-ce qui vous a plutôt amené à... C'est vraiment ces 10 rêves d'enfance qui vous ont amené à vous soucier de l'écologie, ou c'était une problématique personnelle ou professionnelle que vous aviez en amont déjà de cette BD ?
En fait, disons que je voulais professionnellement m'en rapprocher.
D'accord.
C'est-à-dire trouver un métier qui fasse sens avec les problématiques actuelles du réchauffement climatique.
D'accord. Donc, il y a eu une recherche de sens personnel, enfin professionnel en tout cas.
Mais je voulais pas que le voyage soit forcément tourné vers ça. Je voulais vraiment me reconcentrer sur les rêves d'enfance.
D'accord.
Et de fait, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Donc, en fait, j'ai des problématiques qui sont arrivées et qui, évidemment, étaient liées à l'environnement.
D'accord, très bien. Donc, je vous laisse poursuivre peut-être le récit de votre voyage. Donc, vous êtes parti un petit peu à travers le monde, 3 pays principaux, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'était pas de multiplier les pays dans un tour du monde touristique. En fait, donc je suis partie avec mon compagnon, aujourd'hui mon conjoint. Et l'idée pour nous, il y avait 2 choses qui étaient importantes par rapport à ce tour du monde. Donc, aller vivre chez l'habitant pour vraiment découvrir la culture d'un pays. Mmh. Et donc, on est resté 3 mois dans 3 pays différents. Et également, c'était l'idée d'avoir un fil rouge pour que ce voyage fasse sens.
D'accord. Et ce fil rouge, donc, c'était les fameux rêves d'enfance.
Exactement.
Et ce sont uniquement vos rêves d'enfance ou ceux de votre conjoint aussi ?
Alors, ça fait l'objet d'un petit débat dans la bande dessinée, puisque la bande dessinée donc, est répartie en chapitres qui sont autant de rêves d'enfance qui ont été réalisés. Mmh. Et du coup on a ce petit débat, mais j'avoue avoir pas mal gagné. J'ai intégré mon conjoint était très souple par rapport à la réalisation des rêves d'enfance, mais globalement les miens lui allaient aussi.
Et donc ces voyages ont été riches en découvertes, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors ça a été à la fois des découvertes on va dire plutôt humaines, puisque lorsque vous faites ce qu'on appelle du woofing ou du volontariat, donc vous vous rendez chez l'habitant, vous habitez chez lui pour une durée qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il vous offre en fait le logement et les repas en échange de un certain nombre d'heures de travail par jour.
D'accord. Et donc, comment ça se concrétise finalement ? C'était toujours des habitants qui travaillaient à la maison, ou c'était parfois vous donniez du travail, du ménage ? C'était toujours des choses autour de la nature ? Comment vous avez sélectionné aussi ces lieux ?
Et bah, du coup, moi, je les ai axés en fonction des rêves d'enfance que j'avais décidés. Mmh. Donc, pour les cow-boys, du coup, j'ai été chez des fermiers qui étaient des gauchos,
oui.
Donc des gardiens de troupeaux de vaches, bœufs, qui avaient différents types de bovins et d'animaux. Mmh. Pour tout ce qui a été sur la permaculture, pareil, en ferme. J'ai aussi eu un moment où je voulais travailler dans un vignoble. Donc là, c'était plutôt en Nouvelle-Zélande. Mmh. Et il y a énormément de vignobles là-bas. Et donc là, je travaillais avec des vignerons indépendants.
D'accord. Donc vous travailliez directement dans les vignes en Nouvelle-Zélande. Et en Uruguay, vous étiez une vraie cow-boy de western, enfin cow-girl de western, c'est bien ça ?
On peut dire ça, oui. Voilà. Et donc à chaque fois, les rêves en fait ont dessiné les types de volontariat que j'ai ensuite sélectionné.
Très bien. Le dernier pays, donc la Mongolie, c'est bien ça ?
Oui, exactement. J'avais pour rêve depuis très longtemps de faire une vraie mission humanitaire. Donc en fait, ce qui est intéressant, je fais une toute petite bifurcation, oui. Mais c'est que quand on pense à ces rêves d'enfance, forcément, on imagine des choses assez hors du commun. Donc, par exemple, sauver des animaux en détresse, moi, je m'étais toujours imaginée dans la jungle à sauver des gorilles ou à les soigner. Et puis, en fait, à l'épreuve de la réalité, on va dire, en cherchant les volontariats, eh ben, je me suis retrouvée en Nouvelle-Zélande à travailler dans une ONG qui sauvait les poules élevées en batterie.
Très bien. Donc, ça consiste en quoi?
Donc en fait, c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dans toutes les problématiques liées au réchauffement climatique, puisque ben, là, les poules élevées en batterie, ça pose question, bien évidemment, et le fait de les voir et ensuite de venir les... l'ONG permettait en fait de les réhabiliter avant électrocution et de les faire adopter. Après qu'elles se soient remises,
d'accord,
on va dire, de leurs émotions.
Parce qu'une poule élevée en batterie, c'est une poule qui vit dans quelles conditions ?
En fait, une poule élevée en batterie, elle vit dans une cage globalement assez restreinte, avec 10 autres congénères, dans des hangars qui sont fermés au niveau de la lumière, hein, c'est de l'éclairage artificiel, il n'y a pas forcément d'éclairage. Elles sont nourries via des tuyaux, donc tuyaux pour l'eau et tuyaux aussi pour les graines.
D'accord.
Donc elles n'ont pas l'habitude de piquer, par exemple, au sol leur nourriture. Et ce sont des cages qui sont superposées, donc leurs pattes ne touchent pas la terre, mais ne touchent que des grilles ouvertes.
D'accord, c'est terrible. Et donc cette ONG, grâce à laquelle vous avez pu réaliser un rêve d'enfance, elle intervenait à quel moment ?
Du voyage ?
De la vie de la poule. Pardon, on focus poule dans cette émission.
Et bien en fait, elle intervenait au moment où se posait la question de l'électrocution de l'élevage. Donc c'est-à-dire que pour des poules élevées en batterie, en fait, au bout de 18 mois, elles sont un peu moins performantes dans le sens où elles pondent, elles passent de 2 œufs par jour à 1 œuf par jour.
D'accord.
Et donc du coup, pour améliorer la rentabilité, elles vont être électrocutées ou en tout cas tuées, mis à l'abattage et remplacées.
D'accord. Et donc l'ONG les récupérait avant électrocution, les rachetait finalement, c'est ça ?
On les récupérait et ça se faisait un petit peu en sous-main.
D'accord.
Dans la mesure où, ils n'aiment pas, les producteurs n'aiment pas forcément que les ONG viennent dans les bâtiments voir comment ça se
passe. Ils ont des choses à cacher.
Et puis le coût d'abattage est quand même assez conséquent. Donc parfois ça les arrangeait aussi de pouvoir avoir une partie de l'élevage qui était récupérée.
D'accord, ils se débarrassaient du problème. Donc, et vous avez réussi à sauver combien de poules ?
Là, dans l'opération que j'ai faite, on en a pris 300 d'un coup.
Combien, pardon ?
300.
300, ah oui, énorme. Ça, c'est franchement, bravo.
On était contents. Mais elles avaient une sacrée tête. Les photos sont...
C'est... Les dessins sont parlants, en tout cas. Ils sont très explicites. Merci beaucoup pour ce petit focus pool. On va passer, nous, à l'écoute du titre musical que vous avez choisi.
Depuis que tu n'es plus là, depuis que je serre un fantôme dans mes bras le soir, depuis qu'avec la pluie j'ai pris un rencard, et depuis qu'un océan nous sépare, j'ai repris le cours. J'ai beau m'imaginer
Écoutez Les Pluches Livres, nous venons d'entendre le morceau choisi par notre invitée, l'autrice Fémo. Vous nous entendez, Fémo ?
Oui, toujours.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de cette musique pour cette émission ?
Mais avec plaisir. Déjà, cette musique, c'était pour rappeler que à une certaine étape de mon processus créatif, j'écoute beaucoup de musique. Mmh. Celle-ci en a fait partie quand j'ai écrit Dreamtrotter. Et en fait, ça se passe au moment de l'ancrage, donc au moment où tout le scénario, le storyboard, les dessins au crayon à papier sont réalisés et que la BD prend vraiment vie avec l'ancrage, donc soit à l'encre de Chine, soit au feutre du dessin. Et à ce moment-là, j'ai toujours plusieurs musiques et plusieurs albums qui m'accompagnent.
D'accord, très bien. Merci en tout cas pour ce partage. C'est important pour les auditeurs. Je trouve qu'on entre un peu plus dans l'âme des personnes à travers leur oreille quelque part. Parfois on dit que ce sont les yeux, mais les oreilles ça compte aussi. Donc vous nous avez parlé, et c'est le sujet de cette émission, de votre ouvrage Dreamtrotters. C'est un livre qui a une histoire. Est-ce que vous voulez bien nous parler parce que finalement, vous avez fait ce voyage, comme on disait en première partie d'émission, qui était un voyage pour réaliser vos rêves d'enfance. Et c'est devenu un livre. Donc comment s'est passé ces différents changements de process ou de point de vue, ou cette histoire en tout cas de ce livre ?
Avec cette idée de faire un tour du monde qui devait avoir un fil rouge, En fait, les rêves d'enfance que j'ai choisis se sont assez rapidement imposés à moi parce que c'était des choses que j'avais mis de côté, mais en fait que je voulais réaliser. Hein. Mm-hmm. Et étant une grande lectrice de bande dessinée de par ma famille, en fait, en réfléchissant aux différents rêves, je me suis dit, mais en fait, ce serait génial de les raconter en bande dessinée et que ce soit 10 rêves qui soient 10 chapitres.
D'accord.
Et en fonction de là où le voyage m'amènera, bah, il y aura une conclusion. Et le dernier chapitre, ce sera un rêve de réaliser une bande dessinée.
Donc, ce projet de BD, ça arrivait au départ du voyage, finalement.
Et complètement.
Ouais.
Donc, quelques mois avant de partir, en fait, j'ai eu mm-hmm. cette idée-là. Et je ne savais pas du tout dessiner.
D'accord. Ça ne se voit pas.
Donc, en fait, pour l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé une école de bande dessinée à Paris mm-hmm. pour leur raconter cette idée. Et bon, ils m'ont dit, oh là là, vous partez dans 4 mois. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter tout ce que vous voyez pendant le voyage. Mm-hmm. Et ensuite, quand vous reviendrez, on prendra le temps d'apprendre le dessin et vous transformerez toutes vos notes en bande dessinée.
Super.
Et c'est donc ce que j'ai fait.
Trop bien. Et le nom de cette école ?
C'était le Cézanne.
D'accord, ok. Et comment ça s'est passé, cette collaboration, alors, cet apprentissage de cet art du dessin ?
Alors, ça a été une vraie aventure, dans la mesure où, quand j'ai pris le premier cours, j'avais bien dit que je ne savais pas du tout dessiner. Et puis, au téléphone, il m'avait dit, non, mais un rond, un carré, vous savez, on peut faire beaucoup de choses en bande dessinée.
Mm-hmm.
Et je me suis retrouvée au premier cours, où on nous a mis un scénario devant les yeux et on nous a dit, bah, allez-y, en 4 planches, dessinez-le. Et donc là, dans ce type de cours, il y a quand même des gens qui ont un certain niveau dès le démarrage. Moi, j'ai été plongée dedans. Donc le début a été très difficile et en même temps, il n'y a que comme ça qu'on peut réussir à se mettre au dessin et à vraiment l'améliorer.
D'accord. Et combien de temps vous a pris la confection ? Alors, je suppose que donc vous aviez votre matière première, puisque vous aviez pris des carnets de notes, c'est ça, des carnets de voyage ?
Tout à fait.
Et ensuite, il a fallu, si je comprends bien, grâce à cette école, le mettre en dessin et non en mots, pour le coup. Combien de temps ça a pris, juste cette partie-là du projet ?
J'ai pris des cours du soir pendant 3 ans.
Ouf, d'accord. Ah oui, en effet.
Ouais. Et on peut le dire, hein, c'est... On se dit toujours quand on se lance, voilà, ça va me prendre peu de temps. Mais cette BD, elle a mis 7 ans avant de sortir.
C'est une
J'ai fait
belle
ce voyage
preuve
en
de persévérance.
Et elle est sortie l'année dernière.
Super. Mes félicitations. Très, très belle persévérance. Je suis impressionnée. donc, vous avez mis 3 ans à faire les planches, à faire les dessins. Au niveau du texte, comment ça s'est passé ?
En fait, dans le processus de bande dessinée, il y a cette partie qu'on appelle le séquencier,
mm-hmm.
Dans laquelle on réalise les cases en miniature et on écrit les textes. Donc à ce moment-là, le dessin, il y en a quasiment pas. C'est vraiment du schéma. Mais en revanche, les dialogues et les textes sont, commencent à prendre vie et à être écrits.
D'accord. Ok. Donc ça a été pour le processus de création en tant que livre pensé, finalement, bon, même mis en papier. Mais ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus aujourd'hui, c'est le livre en tant qu'objet, au sens où c'est un livre qui a pour but d'être recyclé, en tout cas de retourner à la terre éventuellement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, en fait... Donc, le fil rouge de ce voyage étant finalement un voyage initiatique vers l'écologie, puisque toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont finalement amené à apprendre pas mal de choses sur le retour au sol, le retour à la terre et l'importance en fait de que par exemple toutes nos épluchures ou nos déchets alimentaires soient finalement compostés pour réalimenter le sol.
Mmh.
Je me suis dit, En fait, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'ouvrages sur l'écologie, y compris en BD, des ouvrages super et hyper pédagogiques. Mais l'objet en tant que tel de bande dessinée est rarement travaillé jusqu'au bout. Mmh. En se disant, en fait, un livre, finalement, c'est de la matière organique, dans la mesure où c'est du papier qui vient d'un arbre, et quelque part, il est possible pour lui de revenir au sol.
Oui.
Et donc, j'ai trouvé assez intéressant d'aller jusqu'au bout de la démarche, en se disant, ben, si je dois créer une bande dessinée, j'aimerais en fait que... quelque part, dans sa fin de vie, une fois qu'elle a bien circulé, et ben, ce soit possible de la composter et qu'elle retourne à la terre.
Très bien. Et donc ça, c'est un projet que vous avez soumis à un éditeur ou pas ?
Alors, oui. Et là, il faut que je vous parle des différentes sessions que j'ai fait au Festival d'Angoulême. Parce que la recherche d'un éditeur en bande dessinée, c'est toujours une sacrée aventure. Moi, j'ai fait plusieurs éditions du Festival d'Angoulême, et notamment au Festival d'Angoulême, il y a la possibilité de présenter en fait un ouvrage quand on n'a jamais été édité, et de rencontrer des éditeurs. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. J'ai fait 3 sessions différentes. Ah oui. La première année, c'était trop brouillon au sens où le projet n'était pas assez abouti, donc je n'ai pas pu aller beaucoup plus loin. En revanche, la deuxième année, j'ai réussi à rencontrer Delcourt.
Oui.
En fait, en discutant un petit peu du projet, c'est vrai que les éditeurs... aime bien aussi mettre leurs pattes, et mon projet, moi, en termes de scénario et d'avancée, il était déjà
bien avancé cette fois-ci.
Ouais. Et donc, en fait, ils m'ont dit, bon, l'histoire est top, sur le dessin, voilà, il y a encore des choses à travailler, mais c'est intéressant, et il y a aussi une question de volume en bande dessinée, de volume d'ouvrage.
Oui.
Et donc le projet, du fait de ces éléments-là, et parce que je voulais faire une édition limitée qui circule, ne correspondait pas tout à fait au plan éditorial classique.
D'accord.
Donc ils m'ont plutôt dit, revenez nous voir dans 4 ans quand ce projet-là sera réalisé et avec un autre projet.
Oui.
Et comme j'ai rencontré des auteurs indépendants en parallèle qui m'ont dit que l'auto-édition permettait quand même une certaine liberté créatrice, en fait, je suis partie dans l'idée de faire une campagne d'auto-édition.
D'accord. Donc vous avez créé ce livre en tant que livre-objet, toute seule, ou avec votre compagnon, je suppose, et vous avez eu le choix donc, des matériaux, de la colle, de l'encre.
Exactement. En fait, j'ai recherché un imprimeur qui était assez engagé dans cette démarche-là. Je voulais du coup avoir un interlocuteur en France. Et donc, j'ai trouvé dans le Tarn un imprimeur qui s'appelle Escourbiac, qui a une démarche vraiment intéressante au niveau du papier. Et j'ai pu... sourcer avec mon interlocuteur un papier qui avait une partie de pâte à papier vierge, recyclée, et qui utilisait aussi des résidus de maïs, qui étaient du déchet en fait issu de la production de maïs, et qui étaient récupérés pour être injectés dans la pâte à papier.
D'accord. Donc c'est un livre qui est 100% compostable, qui a très peu d'impact dans sa production, dans sa création, qui a quand même un impact écologique important dans la production.
Alors dans la production, on dit au niveau du bilan carbone du livre, il y a 40% qui est lié à la production du livre, donc vraiment la matière première, et 40% de l'impact carbone qui est lié à sa distribution.
D'accord.
Donc moi j'ai travaillé sur ces deux aspects-là. Donc au niveau de la production, en sourçant un papier qui contenait de la pâte à papier recyclée, puis d'autres éléments, et qui du coup pouvait être facilement biodégradable. Après, ce n'est pas tout à fait parfait dans la mesure où je voulais, par exemple, me passer de la colle en faisant une reliure japonaise. Mais ça, c'était trop complexe à mettre en œuvre.
D'accord.
Donc, j'ai quand même dû faire quelques sacrifices.
D'accord. Mais globalement, vous avez réussi à créer un livre qui respecte donc les questions, du moins qui apporte une réponse plutôt à certaines questions autour de l'écologie du livre.
Ben, en tout cas, j'ai essayé de faire le maximum pour. Et je pense que le tome 2, parce que c'est en deux parties, pourra encore s'améliorer. Mais ça m'a permis de faire un crash test, première version d'un livre, d'une BD qui tend vers le zéro carbone et qui voudrait être éco-responsable.
Ok, merci beaucoup Fémo. Je suis désolée, on va devoir arrêter cette conversation-là. Alors, après, c'est vrai qu'en librairie et dans les métiers du livre, les questions autour de l'écologie se bousculent énormément dans tous les métiers, dans tous les maillons de la chaîne du livre, que ce soit les organismes de formation, les structures régionales, les associations, que ce soit libraire, éditeur, tout le monde se saisit du sujet, tout le monde en fait un petit peu le sien. Comment on peut, et c'est merveilleux ce que vous avez fait en voulant créer ce livre qui respecte le cycle de vie finalement des matières. Donc, pour ces questions autour de l'écologie, il était important pour nous dans cette émission de pousser un petit peu plus. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre seconde émission sur l'écologie dans les métiers du livre. À bientôt.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange.
Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre.